Bienvenue, chers amis à l'écoute, pour un nouveau passage de la vie de Saint François. La veille de Noël, une neige épaisse couvrait la terre. L'ermitage de Gretsch, quelques cabanes de joncs tressées, couronnaient un rocher élevé dans un sombre bois de chêne. De là-haut, on jouissait d'un panorama admirable. À perte de vue, des roches qui s'épaulaient. Au fond de la vallée où était Gretsch, coulait une rivière, noire comme une crevasse dans la neige, et sur le versant opposé de la vallée, le ciel était assailli d'un autre monde de pics et de rochers. Tout cela blanc, d'une neige épaisse et pure. Le soleil se couchait comme en une mare de sang. Puis vint l'obscurité, avec très haut au-dessus des montagnes, de grandes étoiles que le silence et le froid semblaient grossir encore. Chose sacrée. Et la nuit venue, ça et là, dans la vallée, une petite lumière pointa. Peu à peu, il s'en alluma davantage, et tous ces lumignons montaient. C'étaient les gens d'en bas, qui, munis d'une torche ou d'un falot, venaient célébrer la nuit de Noël à l'ermitage. François allait leur offrir là quelque chose de beau. Ce bois de chêne abritait une grotte, et dans cette grotte était une crèche, flanquée d'un bœuf vivant, blanc à museau rose et à cornes jaunes, et d'un petit âne à genoux. Les tables de Bethléem chuchotèrent les enfants ravis. Et au-dessus de cette crèche, on avait dressé un petit autel pour la messe. Les frères des grottes et ermitages voisins sont venus aussi. Voyez les enfants qui peuvent se trouver au premier rang, comme leurs grands yeux cherchent l'enfant Jésus. Les mamans sont attendries. Et voyez ces paysans, aux têtes pareilles à des morceaux de roc, où brillent, braisent leurs yeux, comme ils joignent leurs rudes mains obscures. Tous tiennent les regards fixés sur la crèche, où il n'y a encore qu'un peu de paille. Il faisait un froid de loup. Les oreilles ont brûlé. Et les petits nez des gosses étaient rouges et mouillés. Les torches, fichées dans les crevasses des parois rocheuses, faisaient vaciller leur lueur sur les visages, y allumant les yeux. Le silence attendait une belle chose promise. Puis une sonnette tinta, et de derrière l'autel s'avança un moine en chasuble, avec François comme servant. La messe commença, et tout le monde se mit à genoux. Les regards ne quittaient pas François, qui suivait la messe avec la plus fervente attention, mais se tournaient fréquemment vers la crèche avec un sourire céleste. À l'évangile, François prit le livre saint et chanta le divin récit. Dieu qui naît pauvre dans une étable. La plus belle histoire du monde. Les larmes emplirent ses yeux toujours affreusement tuméfiés. Ensuite, il baisa le livre de corps et d'âme, transporté, grandit. Son cœur en feu le traversait d'une coulée de lumière. Les mains étendues, il contemplait la crèche vide en soupirant d'amour. Il sentait de nouveau, comme naguère à Bethléem, l'heure sainte l'envelopper. Il revoyait la vision, si fondée, broyée par l'excès de l'amour, inondée, imprégnée de délices. Car pour lui, l'enfant gisait là, dans la crèche, un petit être de lumière qui lui tendait les bras. Il se baissa, caressa de ses maigres doigts osseux les joues roses et les boucles dorées, et il prit dans ses bras prudemment ce nouveau-né, l'approcha de son visage, près de ses yeux douloureux, rouges dans la chair livide. Et l'enfanson passa sa menotte sur la barbe rugueuse et les joues creuses et blêmes. Et un des fidèles, par une grâce insigne, vit réellement le véritable enfant dans les bras du saint. Les autres le voyaient aussi, mais en esprit seulement, non de leurs propres yeux. Gentiment, il le remit dans son berceau, continua de le contempler en souriant et se mit à lui parler. De temps en temps, il se retournait vers les assistants et souriait aux yeux étonnés des petits. Il parla de la beauté et de la bonté infinie du petit Jésus, de Dieu devenu enfant de pauvre, et de sa voix forte, douce et claire, si belle, disent les livres. Il parla lentement, comme accompagné d'une musique de harpe. Chacune de ses paroles était une étoile, ruisselante de douce joie. Et quand il prononçait le mot Bethléem, il semblait que son cœur le chanta plus que ses lèvres. On eût dit le doux bêlement d'un agneau. Et chaque fois qu'il prononçait le nom du petit Jésus, la flamme de l'amour traversait son sang. Et il succombait presque à un bonheur trop grand. Il soutenait ce mot long et pur comme un son d'orgue. Il passait sa langue sur ses lèvres pour savourer le miel de bénédiction qui avait déposé le doux nom. Parfois, en parlant, il reprenait l'enfant invisible, le cajolait, lui souriait, lui chantait des mots tendres, puis le replaçait avec un pur respect. Les flambeaux éclairaient des visages émerveillés, et tant sur les visages jeunes que sur les vieux, des larmes coulaient comme une lumière. Il était allé prêcher chez les fermiers dans la vallée et il revenait à l'ermitage par la montagne à travers bois. Le dégel avait duré 3 jours, mais la veille, le brouillard avait ramené le froid et maintenant c'était le verglas. Une grosse affaire cela dans ces forêts. Chaque arbre était blanc du sommet au pied jusqu'à la plus mince ramille, arbre de porcelaine. Et là, où naguère le sol était caché par la neige affaissée sous le dégel, on voyait maintenant les vieilles herbes et les millions de fougères entièrement blanches, tendres, fragiles, miraculeuses, un peu comme des fleurs de gel sur les carreaux. François marcha à pas prudents, respectueux, pour ne froisser aucune fougère. Il relevait sa bure pour ne meurtrir point cette beauté délicate, et il fredonnait une chanson. Depuis 2 mois qu'il était ici, la lumière était revenue. Cette solitude, la nature sauvage, des frères selon l'évangile, et en bas le simple peuple paysan, content de pain et de lait de chèvre. Gens simples, choses simples. Les sources d'amour et de joie spirituelle pouvaient à nouveau jaillir librement. Cette joie spirituelle qui salue et admire en tout l'œuvre de Dieu, qui fait tout aimer pour Dieu. Et Dieu fleurissait en lui. Il le sentait, puissant et infini comme une tempête qui approche, mais une tempête de délices. Les foudres sacrées attendaient, prêtes à descendre en flammes. Il sentait que sur sa vie allait descendre quelque chose de prodigieusement beau, plein de lumière et de ténèbres. La mort peut-être, ou quoi? Il attendait chaque jour, presque toujours seul, abîmé dans l'oraison. Il vivait en d'autres sphères. Les êtres autour de lui étaient comme des choses très lointaines. Il n'en voyait que l'Esprit divin. Manger, dormir, il s'y résignait à contre-cœur. Il était plus âme que corps, quoiqu'en son corps fermentant un levain de douleur. Mais son bonheur débordant les noyait toutes. Il n'eût pas fait un geste pour les guérir. et son oreiller était toujours un petit bloc de bois. Il oubliait son propre corps, mais il relevait sa bure pour ne froisser point la jolie broderie des fougères givrées. Les frères, eux aussi, voyaient qu'il se consumait de plus en plus, échappé à la terre. Il avait quelquefois vu prier, soulevé de terre, environné d'êtres de blanche clarté. Il le considérait et le traitait comme un ange. Et tout en marchant, il reportait d'un élan sa pensée vers Jésus enfant et Jésus en croix. Il s'en enivrait et criait parfois « Jésus, Jésus !» L'écho lui renvoyait ce nom dans la blanche forêt. Un ardent besoin de la croix le possédait. Tout en lui éclatait d'amour. Comment exprimer ce désir, ce feu? Il voulait dire de belles choses et ne trouvait que des fragments de mots. Il voulait chanter et n'avait pas de voix. Il voulait danser et ses jambes le portaient à peine. Ah, pouvoir faire de la musique en un instant pareil! Pouvoir mettre en branle un grand orgue dont les rochers énormes seraient les tuyaux et que la terre entière embourdonna jusque dans ses fondements. Jésus, la croix, musique. Et il ramassa un bâton, le rompit sur son genou, mit une moitié sous son menton et de l'autre la racla. Un violon de deux bâtonnets. Mais il entendait de la musique. Et il balançait le corps comme un virtuose. Dans cette forêt blanche où il n'y avait d'autre bruit que le frottement de ces deux morceaux de bois. Mais il entendait le chant de son cœur, le chant de ses frères, le chant des hommes, l'hymne de reconnaissance et de désir, qui de dessous la ténèbre et le péché monte imperceptiblement vers Dieu, vers le sang de la croix. Il s'avançait ainsi en jouant, et il balançait le buste de droite à gauche, s'étirait, s'arrêtait, se remettait à marcher, et les larmes coulaient de ses yeux rougis, levés, suppliant au ciel. Les cieux ouvrirent leurs cloisons et versèrent une cascade d'anges qui l'entourèrent pour l'écouter. Voici que de nouveau l'hiver est déjà oublié. À vue d'œil, la verdure sort frétillante du sol et des failles du rocher. Écoutez bruire les petites sources. Les canards sauvages tracent des triangles dans le ciel et les alouettes, montant et descendant, tissent de leurs chansons, comme d'une navette, l'espace de la terre au ciel. Les bourgeons sur les arbres attendent une nuit tiède pour faire éclater leur cœur vert. Il va faire beau, vous verrez. Mais à l'approche du soir, l'air fraîchit encore durement sur les hauteurs. François frissonnait et on alluma un petit feu au réfectoire, autour duquel ils allèrent s'asseoir après le repas pour s'entretenir des choses du ciel. François tenait les yeux fermés à cause de l'éclat de la flamme. Ces 12 hommes se taisaient. On entendait crépiter le bois dans le feu et dehors, la brise du printemps soupirait dans les arbres. Depuis tout un temps, il ne trouvait plus rien à dire quand il était avec eux. Son âme était si loin. Il préférait donc se taire par respect et observer pieusement son visage plein de souffrance et de joie. Ils avaient entendu raconter bien des choses au sujet de la prétention des frères qui étudiaient à Bologne et à Paris et d'Élie qui refusait d'observer la nouvelle règle et des beaux couvents et des grandes églises qu'on bâtissait. Il n'osait en parler à François, quoique ils eussent aimé avoir son avis pour en fortifier leur vie évangélique. Comme s'il eût senti leur désir, François dit tout à coup « Le parfait frère mineur doit rester fidèle à la pauvreté comme frère Bernard. Il doit être aimable comme frère Ange, sage et serviable comme Masséo. Il doit tenir sa pensée dirigée vers le ciel comme frère Égide, et sa prière doit ressembler à celle de Ruffin, qui, soit qu'il veille ou qu'il dorme, prie toujours parce que son cœur est toujours près de Dieu. Il doit être patient comme Genièvre, fort d'âme et de corps comme Jean, charitable comme Roger, détaché de toute demeure comme Lucide. Notre demeure est dans le ciel. Et le vrai frère mineur doit... Ici, François s'interrompit pour dire à Léon, « Va voir dehors s'il pleut. » François, qui aimait tous les temps, se souciait tout à coup de savoir s'il pleuvait. Tout se trouvait cela étrange. En tout cas, frère Léon, à la courte barbe blanche, sortit observer le temps. Et François en profita pour dire vite, « Un vrai frère mineur doit être simple et pur comme frère Léon. » Léon rentra, disant qu'il ne pleuvait pas. Et François fit ensuite le plus grand éloge de frère Antoine, cette sainte abeille, et de la comtesse Élisabeth de Hongrie, qui dans son château en Allemagne menait la vie d'une pauvre Clarisse. On frappa à la porte. Un novice alla ouvrir. Deux frères entrèrent. Deux frères qui, l'an dernier, étaient partis de ce ermitage pour l'Espagne. Ce fut un doux revoir. Une nouvelle bûche au feu et les voyageurs, en mangeant leur pain sur le pouce, de raconter tous deux à la fois la situation de l'ordre en Espagne. Ils y vivaient en parfaite pauvreté, dans des huttes de roseaux, et ils se relayaient au travail pour que tous à leur tour puissent se vaquer à la prière, et mille autres exemples de simplicité et de modestie. François en fut tellement ému qu'il se leva, sortit et traça dans la direction de l'Espagne un grand signe de croix pour bénir les frères lointains. Il revint s'asseoir près du feu pour écouter encore, quand tout à coup, nul ne sut comment, sa bure commença de brûler. Tous se levèrent, s'empressèrent pour éteindre le feu. « De l'eau !» crièrent-ils. Lui demeura tranquillement assis. « Non, dit-il, laissez faire notre frère le feu. » La flamme monta plus haut, il lui sourit. Mais un jeune frère au désespoir jeta son manteau autour des jambes du père et étouffa le feu. « Quel dommage !» soupira François en voyant la tache roussie. « Pourquoi as-tu enlevé sa proie au feu, notre frère ?» Ils étaient muets d'admiration. Vraiment, François ne leur paraissait plus un homme, mais un ange, un autre Jésus. Ils étaient assis en silence autour du feu. Lui, le visage levé, où la lumière se jouait, il souriait à quelque chose là-haut et lentement il se couvrit le visage de son manteau. Les frères, un doigt sur la bouche, se retirèrent sur la pointe des pieds. Frère Léon chuchota à l'oreille d'un des deux voyageurs. Il prie. Dieu est avec lui maintenant. À un tel mystère, il n'osait assister. Fallait célébrer cela. Ils allèrent emprunter de beaux couverts chez le maire et dans l'ermitage, on se serait cru chez des gens cossus. Et les mets donc. Mais la place de François était vide. On heurte à la porte et sur le seuil paraît un vieux pèlerin, courbé sur son bourdon, vêtu d'un manteau poudreux, coiffé d'un grand chapeau. Sa voix geint et tremble. « Un pauvre pèlerin malade vous demande l'aumône. » Pour l'amour de Dieu. Ils se regardent. Ils connaissent cette voix, mais aucun n'ose dire qui est cet homme. Entrez, dit le gardien craintif, et le fait asseoir à la place de François. Le pèlerin s'avance, mais au lieu de s'asseoir sur la chaise, il prend son assiette et son pain et s'assied par terre. Aucun convive n'a plus le courage de manger une bouchée. Lui, il vide tranquillement son assiette et la rend ensuite au frère servant. « Merci, père François, » dit celui-ci. Ce pèlerin, c'était François. Il ôta son chapeau et dit d'une voix plaintive, Du moins, me voici assis comme un frère mineur. Quand j'ai vu tout à l'heure cette table bien servie, je ne pouvais pas me figurer que je demeurais chez de pauvres frères mineurs qui doivent mendier de porte en porte pour vivre. » Un frère sanglota. D'autres pleuraient en silence. Un signe bref et énergique du gardien, et le frère servant était déjà en train d'enlever les coupes de cristal et les assiettes de porcelaine, et un autre repliait la nappe blanche et déposait son pain sur l'humble bois blanc de la table. Toute son âme appelait Dieu. Son cœur anxieux avait la nostalgie de l'Alverne pour y prier, pour prier. Et au début d'août, quand le blé penchait sous le poids des épis, ils y montèrent pour y passer le carême de Saint-Michel. En chemin, ils s'adjoignirent encore Ange, Masséo, Sylvestre, Ruffin et Bonisio. Et ainsi, à eux sept, ils traversaient le pays. François ne pouvait plus marcher. Ils demandèrent à un paysan s'il ne pourrait pas conduire François sur son âne jusque sur le mont Alverne. « François d'Assise ? » demanda le paysan. « Oui, » dirent-ils. Le paysan courut à lui. « Êtes-vous François d'Assise ?»« Je le suis, » répondit François. Et les larmes aux yeux, l'homme lui dit. « Eh bien, veillez à être aussi bon qu'on le dit, car beaucoup d'hommes ont mis en vous leur confiance. » Aussi, je vous supplie de ne jamais rien faire qui déçoive notre confiance et notre espoir. » Les frères frémirent d'indignation, mais François se mit à genoux, baisa les pieds du paysan. « Merci, » dit-il, « de cette réprimande. » Et le paysan les accompagna, conduisant le petit âne que François chevauchait en priant. Ils arrivèrent enfin au sommet, à plus de 1000 mètres. Ils frappèrent au minuscule couvent. La porte s'ouvrit d'elle-même, il n'y avait personne. Mais silence. Derrière ces arbres, quelqu'un chante d'une voix de trombone, et voici que paraît, énorme et sombre, courbé sous une grosse outre pleine, frère Agneau. Une espèce de Christophe aux cheveux longs et de la barbe jusque dans ses yeux. Il éclate d'un rire abondant, lâche l'outre et se jette aux genoux du saint. Quand il apprend que ses frères viennent passer ici le carême de la Saint-Michel, il rit plus bruyamment encore comme un cheval qui hennit. Il baise le port effiloché de la bure du père, se lève brusquement en criant « Buvez et je vous laverai les pieds à tous !» Aussitôt, les frères boivent de cette eau fraîche qu'il a été puisée dans la rivière, à 1000 mètres de profondeur. Et dans une cuvette en bois, il leur lave les pieds. Ce gaillard énorme, qui, d'un coup, peut les renverser tous les sept, qui de sa massue abat les ours, qui se nourrit de corbeaux et de poissons crus, est là, serviteur docile, apprivoisé comme un petit chien. Il est le gardien, la servante de l'Alverne. Son grand bonheur est de recevoir un frère qui vient dire la messe et d'entendre parler de François. Alors il pleure. Il vit solitaire, tel un ours. Et quand le silence a été trop long pour entendre au moins quelque chose, il chante pendant des heures aussi fort qu'il le peut, ou bien il imite le hurlement des loups et des fauves, ou encore il se met à sonner la cloche de la chapelle interminablement. Il habite là-haut, fièrement, puissant et bon, un loup au cœur d'enfant. Ah, s'il rencontrait quelqu'un qui dit du mal du père ou le railla, il serait homme à lui casser le crâne. Au plus tôt, il voudrait rencontrer le diable pour l'écraser de ses deux poings. Mais c'est une chance qu'il n'a jamais eue. Avec fierté, il fait remarquer à François la propreté du petit couvent, et comme il sait préserver de la ruine et de la moisissure la petite hutte sous le tilleul. François lui caresse sa longue chevelure et le gaillard en grogne d'aise. Le paysan laisse là-haut son petit âne et s'en retourne. On le lui ramènera plus tard. Les sept hommes, las et contents, sont assis contemplant l'horizon où le soleil se couche. François se leva et dit « Seigneur, demeurez avec nous car le soir approche. » Et ils prièrent. Le soleil sombrait dans un mélange de nuages lourds et dorés. Toute la terre, ses profondeurs infinies, ses plaines avec leurs rivières, leurs forêts, leurs bourgs, villes et châteaux, s'illuminaient d'or et de pourpre. Et derrière surgissaient, éclatant, les blancs sommets des Apennins, pareils à des nuées d'orage. Les moines eux-mêmes étaient baignés de reflets rouges. Tous, même frère Agneau, semblaient des bienheureux. Une gloire les consacrait. Et frère Agneau soupira. Ici, sur la montagne, nous sommes quand même plus près de Dieu. François était debout comme une statue. Il voyait son pays en sa plénière splendeur, toute chose plongée dans une lumière unique. Là-bas, au loin, se blottissaient les villes, bourgs et hameaux qu'il avait traversés en prêchant. Là-bas demeuraient les hommes avec leur âme, comme une étoile dans leur corps. Combien de ces étoiles avait-il fait briller ? Et tandis qu'il en remerciait Dieu, il se sentait triste à cause de ceux qui étaient restés dans les ténèbres, embrumés de péché et de désordre. Et alors il songea à ses frères qui ne savaient pas se donner entièrement à Dieu. « Seigneur, pria-t-il, ayez pitié de ceux qui viendront après moi. » L'or s'éteignit. En bas, la plaine était déjà bleue. Seuls les Apennins gardaient encore un certain éclat. Alors il songea à sa mère. Il étendit les mains dans la direction d'Assise et il dit aux frères avec un tremblement dans la voix « Mes frères, je ne vivrai plus longtemps. Ma chanson est finie. C'est pourquoi je veux être seul, pour m'abîmer en Dieu et pleurer sur mes péchés. Frère Léon m'apportera de temps en temps un peu d'eau s'il veut bien. Il ne peut laisser personne m'approcher et frère Massé en réglera tout pour le mieux afin que tout ce temps on prie beaucoup ici. » Il leva la main, ils comprirent, ployèrent les genoux sous sa bénédiction. Il releva son capuchon et s'en fut à la hutte sous le tilleul. Les frères frissonnèrent d'angoisse et se serrèrent en un groupe fervent. Chaque fois que frère Léon revenait d'avoir porté la nourriture au père, ses compagnons l'entouraient. Leurs questions étaient déjà dans leurs regards. « Sublime !» chuchotait-il. « Il est prosterné dans une lumière céleste et il parle à haute voix, mais je n'ose écouter. Je lutte pour ne pas l'écouter. Il est tellement absorbé dans l'oraison qu'il ne m'entend même pas. » Et les frères soupiraient alors de bonheur. Une nuit, frère Agneau se leva dans le plus grand silence et passa la tête par la porte entrebâillée, non par curiosité, mais mu par la joie, la vénération et l'amour, pour voir aussi cette lumière et ouïr cette voix. Il n'osa sortir, retenu par l'obéissance. Il ne vit rien, n'entendit rien. Le vent nocturne agitait sa barbe. Il sentait le cœur lui battre dans le gosier, tout à son attente. Il demeura ainsi en observation jusqu'au moment où les cimes des Apennins reçurent le premier reflet de l'aurore. Alors, prestement, il rentra. Et le lendemain, veille de l'Assomption, quand frère Léon apporta la nourriture, François lui ordonna de se tenir à la porte de la chapelle et dit « Chaque fois que je crierai, petit agneau du bon Dieu, m'entends-tu ? » Tu répondras aussi fort que tu pourras. « Oui, je t'entends !» François s'enfonça davantage dans le bois, se retourna et cria « Petit agneau du bon Dieu, m'entends-tu ? » « Oui, père, je vous entends !» dit une voix au loin, au-delà des arbres. François avança encore, gravit des quartiers de roches, toujours plus haut, et cria encore. La réponse lui parvint, faible comme un soupir. Il avança encore, dut se frayer un chemin à travers des buissons, et se trouva soudain devant un précipice large de 3 mètres et profond d'au moins 100. La réponse ne lui parvint plus. « C'est au-dessus de ce précipice que je vais habiter, » se dit-il. Il revint à la chapelle et dit au frère agenouillé, « Après-demain commence le jeûne de la Saint-Michel. Je veux le passer à un endroit si peu accessible qu'on ne puisse certainement me voir ni m'entendre. C'est au-dessus d'un précipice. Apportez-y une poutre ou un arbre que nous jetterons sur le gouffre, en guise de pont, ainsi que des branchages et du bois pour bâtir une cabane. » Frère Agneau eut le cœur broyé. « C'est ma faute, » pensa-t-il. « Il sait que je l'ai épié cette nuit. » Le brave homme voulut tout faire pour entrer en grâce. Lui-même porta seul le madrier. Et quel madrier ! Il ployait sous le faix. Les veines de son front se gonflaient comme des cordes. Et il regardait François d'un air suppliant, comme pour lui dire « Regardez ce que je sais faire pour vous et combien je vous aime. » On jeta la poutre sur la crevasse. Elle montait un peu car le bord opposé était un peu plus élevé. Ce sommet-là n'était pas bien large, car pas bien loin, le rocher plongeait de nouveau à pic dans l'abîme, creusant un autre gouffre, de telle sorte que François habitait une île. Il y avait là des chênes sous lesquels on bâtit la cabane. Et quand, vers le soir, tout fut prêt, grâce aux ailes de frère Agneau, François dit au frère « Retournez maintenant. Personne ne peut me rejoindre. Seul frère Léon doit, une fois le jour, dans le plus grand silence, apporter un peu de pain et d'eau, et aussi la nuit à l'heure de matine. Frère Léon, tu déposeras les vivres à la naissance du pont, et quand tu arriveras au pont, tu crieras « Seigneur, ouvrez mes lèvres !» Et lorsque j'aurai répondu « Pour annoncer votre gloire, passe alors le pont et nous chanterons matine ensemble. Si je ne réponds pas, retire-toi vite. » Il les bénit. Quand ils furent partis, il tomba à genoux et murmura « Seigneur, je suis prêt. » Mais alors le diable entra en scène et sema l'inquiétude et le trouble à travers les prières de François. Il lui soufflait sans cesse « Élie, Élie, la maison de Bologne, les frères à l'université de Paris, couvent confortable, église magnifique, pauvre, va, te voilà à présent avec ce fantôme d'âme pauvreté. Tu t'es mis toujours à la poursuite des fantômes. Chevalier, poète, baron, troubadour, saint, entre nous soit dit, avoue que tu es né fou, mais tu as su épatamment faire gober tes lubies. Tout cela ne serait rien, mais combien de pauvres diables n'as-tu pas entraîné au trouble et au péché par tes gémissements? Cela tu vas l'expier, mon garçon. Le pape te maudira, et ton nom laissera après lui une malédiction. Ton ordre s'effrite, dépérit, et déjà en ruine. Tu te fais accroire à toi-même que Dieu est avec lui, mais où sont tes preuves? Élie a les preuves. Dieu abandonne ton ordre et il a raison. » La sueur ruisselait du visage de François, qui criait sans se lasser « Jésus est ma seule lumière !» Et puis des douleurs se déversaient sur lui à plein tombereau. Il hurlait. Ses muscles craquaient sur ses os d'angoisse et de douleur. Cela dura de longs jours. Une fois qu'ayant répondu à l'appel de Léon, il était venu le rejoindre, il se pendit au cou du bon frère en pleurant « Si tu savais ce que le démon me fait souffrir, comme les frères auraient pitié de moi !» Et tandis qu'avec respect, Léon lui essuyait la sueur du visage, François poursuivit « Mais quand je songe à la passion de notre Seigneur, mes douleurs ne sont plus que bagatelles. Et quand les tentations se sont évanouies grâce à la prière patiente, alors je vis des moments si beaux, frère Léon. Le ciel vient à moi. Avant-hier encore, après la victoire sur une grande tentation, se dressa devant moi une belle forme lumineuse qui tenait un violon. C'est ainsi que nous prions au ciel, dit cet ange. Et d'un archer brillant comme une flèche de soleil, il caressa les cordes ardentes et en tira un son si surhumain, si magnifique, que toute la beauté du ciel y semblait fondue. Mon âme résonna d'une joie tellement véhémente qu'elle parut s'échapper de mon corps évanoui. Si l'ange avait glissé une seule fois encore l'archer sur les cordes, elle se serait détachée entièrement pour s'élancer au ciel. Et quand elle fut de nouveau ancrée dans mon corps, j'ai crié « Laissez-moi souffrir et peiner !» Je le répète, désormais je peux le supporter. Si maintenant que je suis encore de cendre et de chair, je goûte déjà un tel bonheur, que sera-ce quand mon âme aura quitté cet outre misérable ? Il caressa un faucon, un ami nouveau qu'il avait trouvé là, un faucon qui le réveillait de son cri chaque nuit à l'heure de matine. « Frère faucon, dit-il, et dès l'oiseau étira sa belle tête puissante. Écoute, frère faucon. » Et François fredonna « Te Deum Laudamus ». Léon murmura le même chant et frère faucon déploya ses ailes en manière de révérence. Au revoir, chers amis, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.